Radio Okapi.
Un leader du groupe armé FPIC, neutralisé par les FRDC en Ituri, Fourabo Mouzabo a reçu des coups de balle au cours d'un accrochage entre ses éléments et une patrouille de l'armée dans la nuit de dimanche à lundi. Une tonne de cathode de cuivre saisie par la police des mines à Lubumbashi. La provenance et le propriétaire ne sont toujours pas connus jusque-là. Jean-Paul Capitula, coordonnateur de la protection civile à Béni, notre invité ce midi. Il revient sur les explosions des bombes artisanales dans la ville et les dispositifs sécuritaires mis en place pour protéger la population. Bonjour à tous. L'actualité part de l'Ituri où l'armée affirme avoir neutralisé un chef influent du groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC, Fourabo Mouzabo, c'est son nom, général autoproclamé de ce mouvement serré et tombé au cours d'un accrochage avec des militaires FRDC en patrouille la nuit de dimanche à lundi dans la localité de Silolo à 8 km du centre de Marabo. L'armée appelle les autres rebelles qui traînent encore dans la brousse à déposer les armes pour ne pas subir le même sort que leur leader. Que représentaient ces présumés chefs rebelles au sein de ce groupe armé, Martial Kizabiamungu?
Fourabo Mouzabo, connu sous le nom de FM, la trentaine révolue, fit le chef du groupement Sidabo dans la chefferie des Andissoma dans les territoires du Romo avant de rejoindre les groupes armés FPIC au début de l'année dernière. Selon des sources sécuritaires, Fourabo était l'un des commandants influents de ces mouvements. Par ses actions dans plusieurs villages de Baïmacide et Irumu Centre, il s'était autoproclamé général. Jusqu'à sa mort, il était très actif dans la région de Sililo, à 8 km du centre de Marabo où ces éléments avaient commis plusieurs exactions contre des civils. Selon les porte-parole de l'armée à Ituri, ce chef milicien a été neutralisé par les éléments de FRDC en opération dans cette région. Le lieutenant Gilles Ngongo précise.
La neutralisation de ces généraux autoproclamés doit interpeller tous les autres chefs impliqués dans l'activisme de la paisible population.
Cependant, d'autres sources dans la région affirment que ce leader de FPIC aurait été tué par ses propres éléments après une dispute. À ce jour, et selon l'armée, une dizaine de leaders de ces groupes armés et leurs collaborateurs sont déjà soit neutralisés, soit aux arrières, ce qui fragilise davantage ces groupes armés. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le tribunal militaire de garnison de Beni Butembo, siégeant au premier degré, vient de mettre en délibéré après quelques jours de procès l'affaire opposant l'auditeur militaire de garnison à trois civils poursuivis comme collaborateurs et membres du groupe rebelle ADF. Dans son réquisitoire, le ministère public demande au tribunal de retenir comme charge la prévention de participation à un mouvement insurrectionnel pour tous les prévenus et de les condamner à des lourdes peines. Martial Papimoukeba pour les détails.
Pour le prévenu ayant plaidé coupable en avouant avoir été enlevé puis entraîné au maniement des armes avant d'être utilisé comme ravitailleur du groupe ADF en produit de première nécessité, le ministère public a requis la peine capitale. L'auditeur militaire a requis la peine de servitude pénale principale de 20 ans contre les prévenus auxquels la justice militaire reproche d'avoir notamment travaillé pour le compte de l'ADF, branche dirigée par les commandants rebelles Amigo, en facilita à ses membres les transports vers différents lieux. Pour le troisième prévenu, chef du village Isonga dans la chefferie de Bachou en territoire de Béni, 63 ans, le ministère public a requis la peine de 10 ans de servitude pénale principale. Il est poursuivi pour avoir délivré un document permettant un libre passage à un ADF lors d'une opération d'achat de vivres. Le verdict est attendu incessamment. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et puis, ouverture hier mardi à la cour militaire d'un procès en procédure de flagrance contre les députés nationaux Josué Mufula, élu de la ville de Goma. Ce parlementaire est poursuivi pour deux chefs d'accusation, notamment la provocation et l'incitation à la désobéissance aux autorités légalement établies, ainsi que la démoralisation des forces armées de la RDC. La cour va se prononcer vendredi prochain sur sa compétence ou pas à juger Josué Mufula. Le point avec Gabriel Oménia.
C'est aux environs des 17h locales que le député national Josué Mufula, accompagné d'un collectif constitué de 5 avocats, que finalement cet élu de la circonscription de Goma a été présenté devant les juges de la cour. La première séance de cette audience, qui s'est caractérisée par des éloges hyperboliques adressés aux prévenus par son conseil d'une part, est suivie d'une longue bataille juridique extrêmement houleuse entre l'organe d'accusation et les avocats de l'accusé. Certes, les avocats du prévenu ont soulevé une exception sur l'inconstitutionnalité du présent procès devant cette juridiction militaire, s'effondrant sur les articles 19 et 61 de la Constitution. Ces débats autour de ces articles ont mis en exergue l'incompétence de la Cour militaire à juger un député national jusque-là couvert par les immunités et privilèges parlementaires. Séance tenante, les avocats ont demandé à la Cour de se dessaisir de cette affaire et de déférer sans embâge le prévenu devant son juge naturel, soit à la haute cour militaire, soit à la cour de cassation. Après les suspens, la cour a pris tardivement l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt sur sa compétence ou non à juger Josué Mufula vendredi prochain. Goma, Gabriel Ouameya, Radio Okapi.
En bref, la Cour internationale de justice statue ce mercredi sur le montant des réparations que doit verser l'Ouganda à la République démocratique du Congo pour l'invasion de l'Est de son territoire lors de la guerre de 1998-2003. Kinshasa réclame plus de 11 milliards de dollars, un montant qualifié d'exorbitant par Kampala. La CIJ, plus haute juridiction de l'ONU, dont le siège est à La Haye, doit rendre son verdict à partir de 15h dans le bras de fer judiciaire qui oppose les deux pays depuis des années. Elle a statué en 2005 que l'Ouganda devait payer de réparations pour avoir envahi la RDC pendant la deuxième guerre du Congo. Ce conflit a impliqué jusqu'à 9 pays africains, parmi lesquels l'Ouganda et le Rwanda, qui soutenaient des forces rebelles dans l'est du pays riche en minerais. La RDC a accusé l'Ouganda d'actes de barbarie lors d'audiences devant la CIJ en avril 2021, évoquant une occupation de cinq ans marquée par de très graves atteintes aux droits de l'homme. Je l'ai dit, dont les titres, près d'une tonne de feuilles des cathodes de cuivre interceptées la semaine dernière traînent encore dans les installations de la police des mines à Lubumbashi. Jusqu'à présent, le lieu de provenance et son propriétaire ne sont toujours pas connus. La police des mines poursuit les enquêtes et met en garde ceux qui se permettent de saboter l'économie nationale par des vols et autres sorties frauduleuses des minerais. Jean Gandou.
D'après la police des mines, le véhicule qui transportait ces minerais venait de la route Likasi. Les services de sécurité, ayant constaté que les véhicules transportaient des biens lourds, ont voulu en savoir plus. Ils ont demandé au chauffeur de s'arrêter, mais il n'a pas obtempéré. Il a préféré rouler vite en prenant des chemins détournés. Se voyant filer, lui et une autre personne qui était à bord ont abandonné les véhicules au quartier Ewabora dans la commune annexe à Lubumbashi avant de disparaître dans la nature. Arrivé sur place, les services de sécurité ont constaté que ce véhicule de marque Régis transportait environ une tonne de feuilles de cathode de cuivre. Ramené depuis lors dans les installations de la police des mines, personne n'est passé pour réclamer ces minerais déjà traités. À notre passage à cette unité de la police, nous y avons rencontré quelques sujets chinois venus voir si ces feuilles de cathode sont sorties de leurs usines. Après vérification, il n'en était rien. À cette occasion, la police des mines demande à tous les intervenants dans les secteurs miniers de toujours respecter la procédure dans l'exploitation et l'exportation des minerais, tout en évitant des sorties frauduleuses et autres vols des minerais appartenant à des entreprises minières. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Santé à présent au Kasaï oriental, l'épidémie de rougeole refait surface. 7 cas viennent d'être déclarés sur les 27 cas suspects recensés dans les territoires de Miabi au cours de la période allant de la première à la quatrième semaine épidémiologique de l'année en cours. Le ministre provincial de la Santé a indiqué hier mardi que les 7 cas sont identifiés dans les 9 premiers échantillons prélevés au laboratoire de l'INRB à Kinshasa. Docteur Célestin Kadima Loufoulobo demande aux parents d'emmener rapidement les enfants qui présentent la fièvre, la diarrhée et les éruptions cutanées dans un centre de santé le plus proche. Docteur Célestin Kadima Loufoulobo, ministre provincial de la Santé, s'exprime au micro d'Esterne Dalafina.
En ce jour, je signale que 22 cas suspects de rougeole ont été notifiés dans la zone de santé de Miabi et que 9 premiers échantillons envoyés à l'INRB Kinshasa, après analyse, 7 se sont révélés positifs. Et en attendant la suite des autres échantillons, je déclare que l'épidémie de rougeole a refait surface dans la zone de santé de Miabi. Toutefois, je tiens à rassurer notre population que toutes les dispositions sont prises pour endiguer dans le plus bref délai cette épidémie. Et pour ce faire, j'ai décidé d'envoyer en toute urgence une équipe de la division provinciale de la santé dans la zone de santé concernée pour investiguer aux côtés de l'équipe locale qui s'occupe déjà de la prise en charge des enfants chez qui on a constaté les signes de rougeole en vue de stopper cette propagation. Et j'invite tous les parents à être vigilants et à amener tout enfant manifestant les signes tels que la fièvre, la diarrhée, les éruptions cutanées, des yeux rouges, etc., dans un centre de santé le plus proche. Qu'il soit calme, nous allons nous battre pour que ce mal ne puisse pas aller très loin.
Restons au Kasaï oriental pour parler de la fin de la mission à Mbujimayi de la délégation conjointe du groupe de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et des experts du ministère national de l'énergie. Au cours de leurs échanges hier mardi avec l'autorité provinciale, la délégation a indiqué qu'elle a clôturé la phase d'identification des sites du projet d'électrification de la ville de Mbujimayi grâce à l'énergie renouvelable. Le chef de mission affirme que la concrétisation de ce projet sera possible après la validation par les autorités des données récoltées sur terrain. Le chef de la délégation, Yann Tavinz, chargé de programme à la Société financière internationale du groupe Banque mondiale, s'exprime au micro des journalistes de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu.
Nous travaillons dans le Kasaï oriental avec les autorités centrales et provinciales sur des projets d'électrification des villes de Mbujimayi et de Kananga à l'aide d'énergie renouvelable, principalement solaire. Nous avons travaillé main dans la main avec toutes les structures locales, avec le gouvernorat, bien sûr, les ministres qui sont derrière moi, mais également avec le ministère de l'énergie, l'agence nationale d'électrification, l'ANSER, ainsi que les dirigeants de la SNEL. Nous avons discuté du projet avec les autorités et identifié potentiellement des sites pour la génération solaire. C'est un travail préliminaire, donc les études techniques seront menées et les sites seront confirmés plus tard. Je crois que l'implication des autorités provinciales ainsi que des structures provinciales du ministère et autres pour à la fois la conception mais aussi l'exécution de tels projets.
Au Maniema, une délégation des consultants de l'Union internationale pour la conservation de la nature séjourne à Kindu depuis hier mardi. Dans une interview accordée à la presse, le chef de la délégation, Dominique Andaimana, justifie leur présence au chef-lieu de cette province pour la formation des acteurs intervenant dans la protection de l'environnement dans le cadre du projet PIRED Maniema qui exécute la coopération allemande GIZ. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Nous avons été invités ici par la GIZ dans le cadre de la mise en œuvre du projet PIRED. Donc nous sommes là pour former les acteurs de la conservation, de la protection de l'environnement, que ce soit les acteurs de la société civile, les communautés locales et tous ceux qui sont impliqués dans le cadre de ce projet. Donc notre mission est donc de venir laisser un certain nombre de connaissances au niveau de la population. Pendant 4 jours, nous aurons des cours interactifs au niveau de la salle et aussi nous allons en laisser sur le terrain pour apprécier le niveau de dégradation qu'il y a et trouver ensemble les solutions appropriées pour inverser la tendance actuelle. Nous venons donc pour soutenir, renforcer les capacités, n'est-ce pas, de cet État en matière de conservation, de gestion durable de l'espace. Et nous sommes sûrs que avec cet appui politique, il y aura vraiment un engagement prononcé pour que nous puissions atteindre ces objectifs, surtout la GIZ qui travaille sur le terrain avec vous, avec les communautés, avec le secteur privé, la société civile.
Initialement prévu du 19 au 28 août prochain, les 9e Jeux de la francophonie sont officiellement reportés en 2023 à une date encore à préciser au regard de l'agenda sportif international. C'est le Conseil permanent de la francophonie qui a annoncé cette décision hier mardi. Plus de détails avec Kanish Mukongo Fonikizi.
La décision fait suite à un échange portant sur l'état d'avancement de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ainsi que sur les possibilités d'une large participation de jeunes athlètes et artistes francophones, a estimé le Conseil permanent de la francophonie qui s'est réuni en session extraordinaire par visioconférence à Paris sous la présidence de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. Sur place à Kinshasa, les comités d'organisation de Jeux accumulaient des retards dans la réalisation des infrastructures structure qui devrait abriter cette fête de la jeunesse francophone, indique le Conseil permanent de la francophonie. Plusieurs missions d'inspection ont défilé dans la capitale congolaise pour palper du doigt la réalité sur terrain. Fin 2021, un nouveau comité national a été nommé pour accélérer le préparatif et qui ont pris un grand retard. Ce report est le deuxième de rang après celui de 2020 suite à la pandémie de la COVID-19.
Actualité internationale. Le Somaliland poursuit la quête de sa reconnaissance. Le chef de la diplomatie de ce pays autoproclamé, situé dans le nord-est de la Somalie, s'est rendu à Taïwan, dont l'indépendance est aussi contestée par Pékin. Après sa visite à Moscou et à Kiev, Emmanuel Macron a donc déclaré qu'il a reçu des assurances pour un arrêt de l'escalade entre la Russie et l'Ukraine. Mais alors que son initiative destinée à redonner une marge de manœuvre à l'Europe semblait avoir l'aval des autorités ukrainiennes, le discours du président français semble avoir provoqué à Kiev un grand nombre d'interrogations.
L'invité.
Notre invité ce midi est Jean-Paul Capitula. Il est le coordonnateur de la protection civile à Beni. Avec lui, nous revenons sur l'insécurité dans cette ville, avec notamment les explosions des bombes artisanales, comme ça a été le cas le week-end dernier au marché Mayangose. Il nous parle des dispositifs sécuritaires mis en place pour protéger les populations civiles, mais aussi d'un certain nombre de recommandations vis-à-vis de celles-ci afin qu'elles restent vigilantes. Il s'entretient avec André Kitenge.
Jean-Paul Capitula, bonjour.
Bonjour André Kitenge.
Dernièrement, il y a eu encore une autre explosion dans la ville qui a fait des victimes non loin du marché central des Kilokwa. Quelle lecture faites-vous en tant que protection civile de cette situation?
Nous faisons une lecture, j'allais qualifier ça la bassesse de ces terroristes. Nous savons qu'ils tentent à faire valoir leurs actions, mais nous avons toujours alerté la population d'avoir l'œil le plus vigilant. C'est pas la première fois qu'ils tentent leur forfait. Et on a compris que c'est dans une précipitation que ces terroristes étaient en train d'agir parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà dans les viseurs de nos services. Et donc, en tant que protection civile, nous essayons de comprendre que la population doit essayer d'être celle qui constitue sa propre ceinture de sécurité d'abord. Et notre message toujours à cette population, c'est de réveiller leur conscience à ce que lorsqu'il y a des explosions, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous désolidariser de notre armée. Plutôt, il faut vraiment avoir l'œil le plus vigilant. Parce que ce terroriste, pour qu'il vienne poser les bombes, il passe par des avenues. Ils viennent de quelque part où ils ont demandé l'adresse à quelqu'un. Soit ils ont logé chez quelqu'un pour venir agir. Si nous sommes tous vigilants, cela peut nous permettre de les capturer. Moi, j'ai toujours demandé que nous ne puissions pas leur laisser à continuer à faire leur sale besogne. Mais par contre, nous devons agir pour qu'on les capture. Parce que si on arrête ces gens qui posent des bombes, donc les bombes n'auront plus à être posées dans la ville.
L'ambassade des États-Unis a alerté sur d'éventuelles attaques sur la ville de Beni. À votre niveau, avez-vous pris un certain nombre de dispositions pour contrer ces actions terroristes?
Déjà de cette alerte, à notre niveau, on a fait une réunion en coopération civilo-militaire. Nous avons appelé les autorités militaires qui sont dans les opérations. On a discuté, on a échangé, on a donné nos informations que la population nous donne. Et pour que les services se mettent à faire de vigilance dans les endroits les plus chauds, dans les axes qu'on nous a indiqués par lesquels l'ennemi pourrait probablement entrer. Donc, nous allons essayer d'aller aux profondeurs pour que nous puissions chercher ces poseurs. Ils vont venir d'où, quoi qu'il en soit, n'importe quelle route, n'importe quel chemin ils vont fréquenter, ils vont trouver les services derrière eux. Parce que les civils sont aussi en train d'être capacités pour voir comment vraiment et détecter le plus tôt possible ces bombes qu'on dépose, mais aussi comment détecter les personnes qui collaborent avec ces déposeurs de bombes. Donc, cette alerte des États-Unis. Par contre, à mon niveau, j'ai demandé à la population d'avoir le courage et de comprendre que cette alerte nous arme encore de plus pour que nous puissions être beaucoup plus vigilants et faire l'attention à ce que nous puissions mettre la main sur ces poseurs de bombes.
Est-ce que les habitants de Beni sont-ils suffisamment sensibilisés par rapport à toutes ces attaques ?
Sont suffisamment informés parce que ce n'est pas le premier forfait. Et la sensibilisation, il n'y a pas une forte sensibilisation que lorsque on a vécu un événement. Aujourd'hui, elle est progressive, on ne peut pas dire le degré ici. Parce que sinon l'ennemi va évaluer quel niveau nous sommes informés. Mais on est suffisamment informés et on est suffisamment préparés. Et donc, il faudra que nous puissions remettre la terreur dans les camps de l'ennemi. Et donc, la population, elle est suffisamment informée et nous pensons que la sensibilisation est continuelle.
La population est suffisamment informée. Quelles recommandations faites-vous en ce moment dans ce genre d'actions qui sont menées dans la ville par les terroristes IDF en posant des bombes? Que recommandez-vous à cette même population?
C'est d'abord féliciter la population qui est en train déjà de mettre la main sur certains grands terroristes de chemin. Et cela prouve la collaboration civilo-militaire. Mais aussi, le message clair, c'est de demander au service d'avoir assez d'élégance à se rapprochant à la population civile. Je l'ai toujours répété chaque fois qu'il faut demander la coopération, mais il ne faut jamais avoir l'attitude qui peut décourager la coopération. Donc, je demande beaucoup d'élégance aux éléments de l'ordre, la police, les services, l'armée, pour que cette cohésion civilo-militaire soit beaucoup cimentée, seule qui pourra nous permettre à finir avec cette guerre. Et en fait, je vais demander à la population, à partir de nos maisons, nous devons identifier chacun de nous. Il suffit de trouver quelqu'un qui présenterait déjà des suspicions de n'importe quel genre que ce soit. Il est très important d'en informer les autorités.
Monsieur Jean-Paul Capitula, je vous remercie.
C'est moi qui remercie la Radio Capi.
Ce journal prend fin. Il a été coordonné par Élisée Chicota et mis en onde par Polydor Basunga. Jocelyne Moussaou vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.